RFI 8h30, à Paris 7h30, en temps universel. Le journal, avec vous Xavier Besson.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Les félicitations sont unanimes ce matin pour saluer l'élection de la Zimbabwéenne Kirsty Coventry, hier à la tête du CIO. Elle est la première femme, mais aussi la première représentante du continent africain à présider ce comité international olympique. Dans ce journal également, la République démocratique du Congo, dans l'Est, où les rebelles M23 occupent désormais l'agglomération de Walikale-Centre, dans la province du Nord Kivu, tandis qu'à Kinshasa s'est tenue hier une audience du procès des généraux de l'armée et de la police, jugés pour avoir fui devant la progression justement de ces rebelles. Nous serons aussi à N'Djamena. Le chef de l'État tchadien vient de nommer son frère au poste stratégique de secrétaire de la présidence. Et au Kenya, Nairobi suspend temporairement au moins l'importation d'aliments et de semences OGM. Elle était déjà l'athlète olympique la plus décorée du continent africain, la Zimbabwéenne, ancienne nageuse Kirsty Coventry. Elle est désormais aussi la toute première présidente africaine du CIO, ainsi que la première femme à occuper ce poste. Et sur le continent africain, on espère que cette élection va marquer un tournant. À Johannesburg, la correspondance de Joséphine Klockner.
C'est une élection historique pour l'Union africaine qui a loué la capacité de Kirsty Coventry à, je cite, faire tomber des barrières en ouvrant la route à un avenir équitable et inclusif pour les sports. Le comité olympique zimbabwéen estime quant à lui qu'elle incarne l'excellence et la fierté pour l'Afrique, le Zimbabwe et les femmes. Kirsty Coventry a fait de son identité africaine un fer de lance de sa campagne. Elle prône davantage de diversité et une gouvernance plus collaborative. Plusieurs figures africaines du sport ont tenu à la féliciter, comme la nageuse sud-africaine Tatiana Smith, qui estime cette élection incroyable, ou encore le footballeur ivoirien Didier Drogba. Dans son pays natal, Kirsty Coventry est plus controversée de par sa participation au gouvernement autoritaire du président Emmerson Mnangagwa, qui a qualifié jeudi son élection de fière réussite pour le Zimbabwe et le continent. L'actuel ministre des Sports a cependant toujours affirmé sa volonté de vouloir changer les choses de l'intérieur. Après son élection, la future présidente du CIO a déclaré à l'adresse de l'Afrique « C'est notre moment ». Joséphine Klockner, Johannesburg, RFI.
Et autre réaction ce matin, celle de Mustapha Beraf, le président de l'Association des comités olympiques africains. Elle lui voit dans cette élection un symbole et un modèle inspirant.
C'est un grand moment, un moment historique pour nous tous. Kirsty Coventry est une championne olympique, une femme, une mère de famille et surtout une grande athlète. Je crois que on peut s'enorgueillir de dire que cette Africaine qui a toujours eu les couleurs de l'Afrique dans le cœur nous remplit d'orgueil et de fierté. Et je suis sûr qu'elle fera au mieux pour être à la hauteur de la confiance qui a été placée pour elle. Elle est passée au premier tour, c'est important, c'est autour de l'Afrique et autour de la femme de montrer ses capacités, ses qualités intrinsèques, son sens moral et son intégrité. On fait d'elle la femme idéale pour diriger le mouvement olympique international qui base tous ses objectifs sur la bonne gouvernance et la clairvoyance.
Mustapha Beraf, le président de l'Association des comités olympiques africains. Et si l'UA, l'Union africaine, s'est elle aussi exprimée pour saluer l'élection de Kirsty Coventry, les réactions dépassent ce matin le simple continent africain. Par exemple en Russie, dont les athlètes ne peuvent participer aux compétitions olympiques qu'à titre personnel. Vladimir Poutine, le président russe, a félicité Kirsty Coventry et il s'est dit convaincu de son intérêt pour la promotion des nobles idéaux olympiques. Fin de citation. En République démocratique du Congo, les rebelles de l'AFC M23 continuent leur progression dans l'est du pays. Ils occupent désormais l'agglomération de Walikale-Centre dans la province du Nord Kivu. C'est à 200 km environ à l'ouest de Goma, la capitale provinciale, elle aussi aux mains du M23. Dans le même temps, à Kinshasa, s'est tenue hier à huis clos la deuxième audience du procès de 5 généraux de la police ou de l'armée accusés d'avoir fui devant l'avancée du M23 au moment de la prise de Goma. Pascal Moulégois.
La haute cour statuant avant dire droit ordonne le 8 clos et la poursuite de l'instruction.
Les procureurs militaires, les cinq juges et les avocats étaient tous d'avis qu'ouvrir ces procès au public mettrait en danger l'armée et la défense nationale. Les médias ont été priés de quitter la salle d'audience. Maître Chicha Bokolombe, avocat de la défense.
Le dossier conserve beaucoup de secrets militaires qu'on ne peut pas exposer à la place publique. C'est un dossier de haute sensibilité, diffusé. Propager certaines informations qui sont secrètes et qui relèvent de secrets militaires pourront impacter l'évolution des combats sur le terrain.
Les débats sont donc limités aux questions de forme. D'après les informations des RFI, un seul des cinq généraux à la barre, à savoir l'ancien gouverneur intérimaire du Nord Kivu, a posé des conditions. Il a par exemple demandé que certains procès-verbaux soient sortis du dossier d'instruction, estimant qu'ils avaient été mal établis par le chef des renseignements militaires après son audition. Il a aussi qualifié d'obscurité des libellés les faits qui lui sont imputés. Étant policier, bien qu'exerçant des fonctions politiques sous un régime d'état de siège, il explique se voir reprocher des faits purement militaires liés aux opérations dans lesquelles il n'était pas impliqué. La haute cour a promis de se prononcer mardi prochain et pourrait ainsi aborder les fonds de l'affaire. Pascal Mulegwa, Kinshasa, RFI.
La guerre au Soudan, où l'armée nationale, fidèle au président de la transition, le général Al-Burhan, l'armée soudanaise continue sa progression dans Khartoum, la capitale. Ce matin, un de ses porte-parole assure que les soldats ont réussi à reprendre le contrôle du palais présidentiel, le complexe du pouvoir soudanais qui était aux mains des ennemis paramilitaires FSR depuis les premiers temps du conflit, depuis maintenant près de 2 ans. Au Tchad, la politique est bien une affaire familiale. N'Djamena, le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby, nomme son petit frère Daoussa Idriss Déby Itno au poste de secrétaire particulier du président. N'Djamena, correspondance de Nadia Benmafoud.
Discret, calme, posé ou encore efficace, c'est ainsi qu'est décrit Daoussa Idriss Déby par ceux qui le connaissent. Il faudra désormais passer par lui pour accéder au chef de l'État. Daoussa Idriss Déby était jusque-là l'adjoint d'Ahmed Kogri au secrétariat particulier de la présidence et ce dernier en poste depuis février 2020. 24 était arrivé en bout de course. Selon certains proches, il était aussi critiqué pour sa proximité avec la France. Les deux frères Mahamat et Daoussa sont proches depuis l'enfance et selon des chercheurs tchadiens, par cette nomination, l'entourage du président se resserre dans un cercle familial et amical de confiance. 3 hommes forts entourent désormais le président, son ami Ismaël Souleymane Loni, directeur général de l'Agence nationale de sécurité de l'État, son frère cadet Abdelkerim Idriss Déby, conseiller aux affaires africaines et internationales de la présidence, et Daoussa Idriss Déby, donc au secrétariat du président. Selon le professeur Avoksou Madjona Achenemou, opposant et président du parti Les Démocrates, depuis plus de 30 ans, le Tchad est dans un système dynastique où les décrets et les arrêtés servent à nommer des membres de la famille au pouvoir. Déby perd lui aussi privilégier la famille. Fin de citation. Nadia Benmafoud, N'Djamena, RFI.
RFI, 8h37, à N'Djamena, même heure à Bangui, la Centrafrique, où l'on apprend l'arrestation de 2 frères de l'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra, accusés de faire partie d'une conspiration en vue d'empoisonner le président Faustin Archange Touadéra. Leurs proches dénoncent une arrestation politique, alors que l'ex-chef du gouvernement centrafricain est un des candidats pressentis pour la prochaine élection présidentielle à la fin de l'année. Les mois passent et le dossier n'avance que très lentement, voire pas du tout au Cameroun. L'affaire Martinez-Zogo continue de s'enliser. Plus de 2 ans après que le corps sans vie de cet animateur radio a été retrouvé à Yaoundé, le procès de 17 accusés n'est toujours pas entré dans le vif du sujet. Un recours est en ce moment entre les mains de la cour d'appel et là aussi cela prend du temps. Amélie Tulé.
Nouvelle requête, nouveau délai. 2 parties au dossier ont décidé de récuser 2 juges de la cour d'appel. L'avocat des services de renseignement de l'État camerounais et l'avocat d'une partie de la famille de Martinez Zogo mettent en cause l'impartialité des magistrats et demandent leur remplacement. Obligée d'examiner leurs arguments, la présidente de la cour d'appel du centre doit se prononcer sur la demande d'ici le 17 avril. 4 semaines supplémentaires donc avant de pouvoir relancer les débats sur la procédure et sur les manquements que les parties disent avoir identifiés dans le travail du tribunal militaire. L'avocat de l'un des accusés se dit étonné par le choix de ses confrères. Maître Seri Simpli Zoku déplore la demande de récusation, un procédé dilatoire selon lui pour prolonger la détention de son client, l'ancien patron des renseignements camerounais, Léopold Maxime Eko-Eko. Plutôt une démarche pour défendre le droit, selon l'avocat de l'État du Cameroun, Maître Claude Assira, dans un dossier qu'il qualifie de vérolé. Toutes les pratiques interrogent sur la sincérité des acteurs, dit l'avocat. Nous ne sommes pas nombreux à chercher la vérité dans cette affaire.
Amélie Tulé, enfin au Kenya, c'est une question de souveraineté alimentaire. Les OGM, aliments et semences génétiquement modifiés, ne peuvent plus pour l'heure être importés. Décision temporaire de la Cour d'appel de Nairobi et nouvel épisode judiciaire en fait après que le gouvernement kényan a levé l'interdiction des OGM, c'était il y a 3 ans. Épisode en tout cas vu comme une victoire, surtout pour ceux qui se battent contre les semences stériles à usage unique. Reportage de Gaël Lalex.
Down, Askini Asker Ungo vient du comté de Migori, à la frontière avec la Tanzanie. Elle cultive du maïs, des haricots, des arachides, des patates douces et du manioc sur 4000 mètres carrés. Ses semences, elle les tient de son père.
Je prends mes graines dans mon jardin, je les sélectionne et les garde au sec pour la culture suivante. Elles sont gratuites. Les graines OGM, 2 kilos peuvent coûter 1000 shillings, plus de 7 euros. Elles ont besoin de pesticides et d'irrigation. On n'a pas tout ça.
Pour augmenter les rendements agricoles, le gouvernement kényan a pris 2 mesures. Autoriser les OGM et interdire les semences indigènes. Sylvanus Kasiti est membre du groupe de référence de la société civile.
Les gens ont toujours échangé leurs graines, mais maintenant, la loi sur les semences criminalise ce troc. Les fermiers peuvent être arrêtés pour avoir utilisé leurs propres graines. Les semences OGM, elles, ne peuvent pas être replantées. Elles font de nous des esclaves de nos propres fermes.
Pour Elisabeth Atieno Opolo de Greenpeace Africa, c'est toute la souveraineté alimentaire du Kenya qui est en jeu aujourd'hui.
Les OGM placent le contrôle des semences entre les mains de quelques multinationales. La souveraineté alimentaire n'est véritablement atteinte que quand les agriculteurs contrôlent leurs semences. Il faut soutenir un système juste qui ne les rende pas dépendants d'intrants très chers.
D'après l'ONG Grain, 100% des brevets en biotechnologie dans le monde sont aujourd'hui détenus par une poignée de multinationales. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
À Nairobi, au Kenya, où il est maintenant 10h42. Et vous êtes avec Julien Coquel-Rohem pour la suite d'RFI Matin.